Depuis le rapport de mission demandé en 2001 par Bernard Kouchner au docteur Éric Piel et Jean-Luc Rolland, intitulé « De la psychiatrie vers la santé mentale », jusqu'au plan « Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 », initié par Philippe Douste-Blazy et soutenu par Roselyne Bachelot, la politique de santé mentale occupe un espace de plus en plus large dans l'organisation du système de soins qui s'y rapporte. Elle ne concerne plus seulement la souffrance psychique au sens restreint, mais l'ensemble des troubles relationnels qui caractérisent le comportement d'un individu jugé inapte à vivre en société. C'est ainsi que les troubles psychiques se doublent maintenant de troubles du comportement et les troubles relationnels de troubles à l'ordre social. Les hommes imparfaits n'ont plus droit de cité et le mal de vivre est souvent stigmatisé. Un idéal de conformité tente de s'imposer socialement. Il suit en cela les nouvelles classifications américaines des maladies établies par le DSM, autrement dit Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux. Reste que l'extension du domaine de la santé pose de redoutables problèmes de civilisation. Que se passe-t-il au juste dans le monde de la psychiatrie, de la psychanalyse, des psychologues, des experts de santé, de l'administration, pour que de tels plans viennent bouleverser à ce point notre conception de la santé mentale? Ce seront les questions du jour. Pour aborder ces redoutables questions, il fallait un support, et ce support, c'est le livre de Roland Gori et Marie-Josée Del Volgo, intitulé « Exilé de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique » qui est paru chez De Noël. J'ai donc invité Marie-Josée Del Volgo, qui est directeur de recherche en psychopathologie à l'Université d'Aix-Marseille 1 et praticien hospitalier à l'assistance publique de Marseille. Marie-Josée Del Volgo est en différé puisqu'elle est à Aix et non pas dans le studio. Bonjour Marie-Josée Del Volgo.
Bonjour Philippe Petit.
Elle est accompagnée de Roland Gori, co-auteur donc de ce livre, professeur de psychopathologie à l'Université d'Aix-Marseille 1 et également psychanalyste. Bonjour Roland Gori.
Bonjour.
Et dans le studio, nous avons Dany Robert Dufour, qui est professeur de philosophie de l'éducation à Paris 8 et également directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, où il travaille au croisement de la philosophie et de la psychanalyse. Bonjour Dany Robert Dufour.
Bonjour.
À côté de lui, Philippe Pignard, qui est déjà venu dans cette émission, qui est éditeur et auteur d'un livre récent intitulé « Les malheurs des psys » paru aux éditions La Découverte. Bonjour Philippe Pignard.
Bonjour.
Et à côté de lui, Nicolas Dissèze, qui est psychiatre à la maison de santé d'Épinay. Et je dois excuser au passage l'absence de Marcel Tchermak, ancien psychiatre et psychanalyste, qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Néanmoins, Nicolas Dissèze, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, commençons avec vous, Roland Gori et Marie-Josée Del Volgo. Ce livre, j'énonçais le sous-titre à l'instant, pourquoi établir, ou en tout cas tenter d'articuler, la situation dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie avec ce que vous appelez, d'une part, la médicalisation de l'existence, mais que vous mettez en rapport avec le nouvel ordre économique que vous qualifiez de néolibéralisme. Est-ce que cette visée d'emblée générale qui adopte un point de vue quasi civilisationnel n'est pas par trop prétentieuse pour aborder ces questions de santé mentale? Mais vous allez peut-être nous expliquer, pour introduire la discussion, vos intentions. Alors, l'un ou l'autre, Roland Gori ou Marie-Josée Del Volgo, je vous écoute.
Elle me fait signe de commencer.
D'accord. Roland Gori.
Oui, alors, bon, le risque de prétention, il est évident que dès lors qu'on a... on comprend le risque d'une réflexion un peu anthropologique pour aller vite sur sa pratique, aussi bien sa pratique de soins que sa pratique d'enseignement ou de recherche. Ben, ce risque, bien sûr, on le court. Mais si vous voulez, c'est pas à ce niveau-là que je me placerai. Je me placerai finalement à partir des trois thèses qu'on a un petit peu énoncées. C'est-à-dire que, bien sûr, la médecine et la psychologie, c'est pas seulement des modes de connaissance scientifiques ou des rationalités scientifiques ou des pratiques professionnelles. Ce sont aussi des pratiques sociales et des pratiques sociales qui participent au gouvernement des individus et des populations. Donc, si vous voulez, on part déjà de ce point qu'on avait un petit peu labouré avec la santé totalitaire en 2005, pour ensuite se demander, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé en psychiatrie. C'est-à-dire que c'est un peu la deuxième thèse, c'est-à-dire que les diagnostics et les modes de traitement psychiatrique, la manière de soigner finalement les plus vulnérables, hein, en médecine, bien sûr, les patients, les enfants, les vieillards, les mourants, et en psychiatrie, bien sûr, les malades en souffrance, les fous, pour aller vite, ça vient révéler quand même la substance éthique d'une civilisation, ça vient révéler les idéaux, si vous voulez, d'une civilisation. Donc, on a un petit peu cet angle d'attaque, considérer la psychopathologie, comme dit Foucault, comme un fait de civilisation. Alors, troisième point,
oui,
et puis je termine simplement là-dessus. Troisième point, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, depuis 25 ans, pour aller vite, ou 28 ans, c'est-à-dire depuis l'émergence du DSM-3, qui a complètement recomposé le paysage de la psychiatrie à partir d'un certain impérialisme anglo-saxon ou américain, enfin, comme vous voulez. Voilà, c'est ça notre question. C'est-à-dire, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos pratiques et dans nos référentiels, dans nos modes de pensée, et essayer de voir si, au-delà, encore une fois, de leur validité plus ou moins forte au niveau épistémologique, ça ne correspond pas à un problème de mutation dans la civilisation, de mutation anthropologique. Voilà, pour dire les choses d'entrée de jeu.
Roland Gori, mutation anthropologique, afin de lancer la discussion, on va voir si on peut se mettre d'accord, en tout cas, sur les prémices. Vous énoncez, effectivement, l'idée d'une extension du champ de la médecine, voire du champ de la psychiatrie, ce qui veut dire précisément que la part du social, disons, dans la construction des normes, devient de plus en plus prégnante, et pour expliquer cette part du social, vous vous attachez à la notion de comportement. Il y aurait de plus en plus une tendance à l'évaluation des comportements, donc un effet de quadrillage des populations, dites-vous, qui impliquerait, si vous voulez, de nouvelles normes et surtout de nouveaux moyens de contrôle. Alors, petit tour de table sur ce diagnostic-là, si je puis dire, à des médecins. Nicolas Dissèze, qui est psychiatre, est-ce que vous êtes d'accord?
Je crois, oui, dans le grand axe là que vous avez tout à fait clairement indiqué, qui est celui de l'ouvrage de Roland Gori et de Marie-Josée Del Volgo, est à suivre. Il y a, avec cette politique de santé mentale, une nouveauté. Hein. Cette politique, effectivement, elle est la modalité, non seulement dont notre modernité vient traiter la question de la folie, mais dont notre modernité vient proposer une norme. Et cette norme, c'est ce qu'indique l'ouvrage, je crois, de mes collègues, cette norme, elle est à trouver dans un idéal qui est celui d'une société libérale, qui est l'idéal du consommateur. On voit combien ce déplacement-là, il s'opère par de très nombreux changements de vocabulaire, hein, par des modifications sémantiques, qui a, par exemple, je le cite,
par exemple,
qui est venu transformer nos patients en usagers. Usagers, il faut pouvoir lire les textes pour ça de façon assez simple. Usager, ça veut simplement dire consommateur de soins. Donc la norme nouvelle qui est proposée, là, hein, c'est celle de devenir tous des consommateurs de soins, en santé mentale en l'occurrence. C'est un type de déplacement là, qui est, que l'on peut lire à travers l'ouvrage de mes collègues et qui me semble un repérage particulièrement important à repérer.
Donc vous pensez que le consommateur de soins, entre guillemets, est susceptible de subir des effets de quadrillage dans la chaîne de soins, justement, et que de ce fait, le patient dont on, Roland Gori et Marie-Josée Delvelgo le rappellent de nombreuses fois dans leur livre, il existe quand même un droit des patients qui n'existait pas auparavant, mais il serait quand même, du fait de cette chaîne de soins, pour rester dans votre exemple, plus quadrillé qu'hier.
Cet usager, hein, en santé mentale, mais en médecine en général, bien sûr, il est soumis à une logique qui est celle d'une logique de l'économie, hein, de l'économie libérale, qui vient par exemple l'inciter à se grouper en association de patients, pardon, en association d'usagers. Hein, en santé mentale. C'est-à-dire qu'il est pris dans un mouvement où il a à faire valoir ses droits, hein, ses droits légitimes. C'est pas ce que je remets en question, c'est la logique qui anime l'affaire et qui est fondamentalement nouvelle. Il a à faire valoir des droits, à se regrouper en groupe de pression, c'est-à-dire peu ou prou en lobby, pour faire valoir un certain nombre d'évolutions dans le champ de la santé mentale. Il s'agit de ça. C'est un mouvement qui a fait ses preuves, qui a marqué des progrès décisifs, hein, on le sait historiquement, à partir des associations de patients atteints du virus du sida. Hein. Mais il s'agit de, je crois, là pour nous aujourd'hui, d'examiner quelles différences s'opèrent quand ces usagers en santé mentale, ils sont atteints d'autres difficultés, d'autres troubles que des maladies organiques.
Alors, cela participe donc de ce que les deux auteurs, je vais leur redonner la parole tout à l'heure, appellent donc la transformation contemporaine de la psychiatrie en santé mentale. Philippe Pignard, je crois que sur les usagers de santé, vous n'avez pas tout à fait le même point de vue, je crois.
Non, parce que je crois que justement, on peut pas employer indifféremment le mot consommateur ou le mot usager. Usager, justement, ça évoque par exemple les services publics. Donc ça évoque des choses qui sont pas celles des consommateurs. C'est-à-dire, usager, ça évoque la possibilité de gens qui sont pas isolés les uns par rapport aux autres, comme le sont les consommateurs, mais qui peuvent se regrouper. Et moi, j'ai assisté l'année dernière à un congrès au Québec qui regroupait 500 personnes, 250 personnes atteintes de troubles mentaux et 250 personnes qui étaient des gens qui travaillaient dans le cadre de la santé mentale, comme travailleurs sociaux, comme infirmiers, un certain nombre de psychanalystes, des psychanalystes qui étaient quelque part les garants, qui se présentaient comme les garants du fait que cette réunion serait indépendante de l'industrie pharmaceutique. Il n'y avait effectivement aucun laboratoire pendant ce congrès qui a duré 3 jours. Et les patients qui étaient à toutes les tables rondes, qui étaient vraiment ceux qui étaient au centre des débats, ont pu discuter de ce qu'ils appelaient la gestion autonome des médicaments. Et ça a été une réunion absolument passionnante. Il faut se rendre compte qu'à l'échelle de la France, une réunion comme ça réunirait 5000 personnes, 5 ou 6000 personnes, dont 3000 patients. Et pas des patients atteints de pathologies légères, pas des patients atteints de troubles psychologiques légers, mais des patients qu'on considère comme des patients qui sont à l'hôpital ou qui en sortent ou qui en rentrent. Et avec quelque chose, un apprentissage collectif qui était absolument passionnant de la part de ces usagers, c'est qu'au Québec, il s'est mis en place un système que je trouve tout à fait remarquable, à savoir les patients ont la possibilité de devenir eux-mêmes, disons, avoir un poste d'encadrement dans le système du soin psychiatrique. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux qui encadrent, qui vont voir dans les patients dispersés dans des logements, dispersés dans des lieux divers, puisqu'il y a de moins en moins de gens dans les hôpitaux comme en France, c'est souvent d'anciens patients. C'est-à-dire que les anciens patients ont une filière de sortie de la maladie mentale, qui est celle de devenir eux-mêmes travailleurs sociaux. Et là, il y a des expériences collectives qui sont partagées, qui sont absolument passionnantes et qui montrent que usager, ça débouche pas forcément sur consommateur et ça débouche pas forcément sur le fait d'être instrumentalisé par l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est possible. Ça existe. Mais ça, c'est ce qui se passera si on se conduit mal, nous, les professionnels, avec les usagers. C'est-à-dire que si on insulte les usagers, si on leur dit que vous n'êtes que des consommateurs, etc., on leur donnera ce chemin-là. C'est-à-dire qu'ils se précipiteront dans les bras de l'industrie pharmaceutique.
Dany Robert Dufour.
Oui, moi je...
Sur le constat, hein, et après on redonnera la parole à Roland Gory et Marie-Josée Del Volvo.
Moi je suis très sensible à ce qu'avance Roland Gory à propos de la mutation anthropologique. Alors évidemment de ma position de philosophe, je reprends les choses d'un petit peu en amont, si vous voulez, un peu plus loin, puisque lui, en tant que clinicien, il voit, il analyse donc les effets, qui sont les effets en aval de cette mutation anthropologique. Et moi ça me semble extraordinairement important, et j'appellerais ça une mutation dans la culture, ou dans la civilisation au sens freudien du terme. Pourquoi ? Parce que globalement, nous sommes passés, je dirais, en deux siècles, donc je remonterai un petit peu plus loin, d'un principe d'organisation du social et du politique, ou du politique au sens grec du terme, la polis, le vivre ensemble, la cité, quoi. Nous sommes passés donc d'un principe qui obligeait à une certaine retenue et une certaine frein dans les passions que chacun pouvait manifester, donc qui était d'ailleurs manifesté dans ce qu'on appelle dans des commandements. Par exemple, nous avions des catalogues de commandements avec des « tu ne dois pas », etc., etc. Ou même des décalogues dans donc les grandes formes, qui sont les grandes formes civilisationnelles, par exemple dans les monothéismes. Nous sommes à partir du XVIIIe siècle avec des moments d'aller et de retour, mais en tout cas maintenant nous y sommes véritablement, passés à un autre mode d'organisation du social qui participe non plus d'une répression des passions, mais d'une libération des passions. Hein? Et je crois que, pourquoi libération des passions? Tout simplement parce que nous sommes dans une économie de marché, effectivement, et que la libération des passions est bonne pour le marché. Pourquoi? Parce que le marché peut dire, manifestez absolument toute appétence que vous voulez manifester, nous pouvons vous fournir l'objet manufacturé, le fantasme sur mesure, tout service marchand qui viendra combler toute appétence que vous pourrez manifester. Alors, il est évident que tout ça produit des débordements importants sur le social, puisque si chacun...
Et selon vous, il y a un lien entre ce que vous venez de dire et la mutation de la psychiatrie en santé mentale.
Mais bien sûr, mais il y a un lien...
Alors, quel est ce lien ?
Il y a un lien manifeste.
Manifeste.
Le lien manifeste, c'est que si chacun est invité à cette libération des passions et des pulsions, ce qu'on appelle donc depuis Freud des pulsions, il y a manifestement des débordements dans le social, qui fait que la vie ensemble devient difficile parce que la passion de l'un peut déborder sur l'autre et crée donc des zones de conflit multiples. Donc le problème, c'est que nous sommes à la fois dans une problématique qui libère les passions et qui accélère sur les passions, et puis quand ça déborde dans le social, il faut freiner. Et comme il n'y a plus de principe symbolique d'intégration d'une limite donc à ces passions, la seule possibilité, c'est d'agir directement sur les corps. Et c'est pourquoi donc on assiste en même temps donc à une libération des passions et un freinage directement sur les corps. C'est plus un freinage
mais
symbolique.
Mais quel était ce principe symbolique auparavant ?
Ah ben le principe symbolique, c'était par exemple celui qui est exprimé par les monothéismes, par le champ psychanalytique, par le non-N-O-N du père qui fait limite. Par exemple, je lisais il y a très très peu de temps Malaise dans la culture, qui fonctionne à partir de l'idée que il ne peut pas y avoir, il y a une phrase de Freud qui est magnifique, qui dit la réalisation des objectifs du principe de plaisir, à savoir devenir heureux, est impossible. Ça, on reconnaît l'humour un peu méchant et raide de Freud là-dessus, tout simplement parce que il dit que c'est impossible, parce que si on laisse ceci aller, ça déborde dans le social, et si ça déborde dans le social, ça provoque des frictions importantes, et donc on a trouvé comme moyen maintenant les molécules pour border les sujets, pour, disons, un peu coudre les corps et essayer de faire rentrer les corps dans leurs limites, pour limiter les passions et les pulsions.
Merci. Je rebondirai sur cette question et je vais donner tout de suite la parole à Roland Gory et Marie-Josée Del Volvo, mais Nicolas Dicès veut dire un tout petit mot.
Juste un point de précision pour aller dans le sens du propos de Daniel Robert Dufour. Les décalogues, hein, et par exemple celui qui interdit « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin », il crée du désir immédiatement, c'est-à-dire qu'il rend cette femme immédiatement désirable.
Bien sûr,
hein, c'est des effets qui sont là, ceux du désir décrits par Freud à partir de la fonction de la négation.
Roland Gory, alors, pardon, Marie-Josée Del Volgo, puisque c'est au centre de votre livre aussi, cette mutation anthropologique, je voudrais essayer d'osciller justement entre cette analyse générale qui porte sur la question du symbolique, si j'ai bien compris, et l'analyse plus particulière de la médicalisation de l'existence. Mais sur la mutation anthropologique elle-même, j'ai envie de vous poser comme question, Marie-Josée Del Volgo, puisque c'est évoqué dans votre livre, ce que vient de dire Dany Robert Dufour, c'est une question un peu provocante, mais c'est volontaire, ça n'a pas tellement marché avec le nazisme et les totalitarismes que vous mettez en scène dans votre livre. Alors, elle est de quel ordre aujourd'hui cette mutation anthropologique, eu égard, disons, celle, à la coupure, disons, d'avant la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, en écoutant là tout ce qui s'est dit, mon idée était de repartir d'une définition de la santé, la fameuse définition de l'OMS de 1947, qui est justement l'année de Nuremberg. Hein, oui. Et c'est pas étranger, puisque l'OMS donc définit l'état de santé comme un complet bien-être psychique, physique et social. Qu'au même moment, ce congrès de Nuremberg donne lieu à cette réflexion, cette horreur donc de ce qui s'est passé, et donc à amener ce progrès du consentement, donc cet individu libre et autonome kantien. Donc voilà, il y a déjà en 1947,
il y a un lien entre l'état de santé et le procès de Nuremberg.
Bah, il y a un lien, au moins, disons, chronologiquement.
Oui, hein, oui, chronologiquement.
À l'instant, je viens de le réaliser. Bon, je n'avais jamais trop, fait cette relation.
Vous avez fait un lapsus qui est assez amusant. Vous avez dit congrès de Nuremberg et non pas procès de Nuremberg. Vous deviez penser à un congrès de psychanalystes.
Oui, voilà, exactement. Procès de Nuremberg. Oui. Donc, cet état de complet bien-être, on le retrouve. Par exemple, en 1990, l'OMS promet encore une santé pour tous en l'an 2000. Et je rappellerai qu'en 1990, on est en pleine épidémie de sida. Donc, sauf à considérer que les patients atteints de sida ont bien mérité les choses. Voilà oui, quelque oui. chose de totalitaire, à mon sens. Hein, quelque chose qui va pas, comme on dit. Hein. Dans le domaine de la santé, et du coup, cette santé et la psychiatrie qui va du côté, surtout la psychiatrie universitaire, qui va du côté des sciences, hein. Votre émission s'appelle Science et Conscience, qui est attirée par les sciences, et quelles sciences? Les sciences du cerveau, les neurosciences. 1990, c'est le début des neurosciences, c'est pas très vieux les neurosciences. Et donc il y a une attirance vers cette santé telle qu'elle se définit et qui devient normalisatrice, médicalisante à outrance. Hein. Puisque vous avez parlé de la médicalisation, c'est Foucault hein, qui a abordé les questions par ce biais-là et qui dit que dans la situation actuelle, ce qui est diabolique, c'est que lorsque nous voulons avoir recours à un domaine que l'on croit extérieur à la médecine, nous nous apercevons qu'il a été médicalisé. Et médicalisé, il rajoute d'ailleurs que c'est aussi psychologisé. Hein, psychologisé, médicalisé, c'est la même chose. Autrement dit, dans le sens où la pensée médicale distingue le normal et l'anormal. Et donc, ce qu'on dénonce aussi, c'est cet empire d'Édis, cet empire de l'anomalique. Donc cette manière où on serait tous des anomaliques, des anormaux, et qu'on aurait tous à se surveiller, qu'on serait une micro-entreprise, et donc cette auto-surveillance de nos conduites, hein, on devient une manière de prendre nous-mêmes en charge notre santé. Hein.
Qui est autosurveillance, qui ne laisse pas sa place au hasard, à un jeu social où le sujet, justement, pourrait faire preuve véritablement de sa singularité, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, avec exilé de l'intime, au sens de l'intimité psychique, de l'historial, de replacer chaque symptôme. Hein. Le symptôme, c'est l'événement malheureux, au sens étymologique. Qu'est-ce que c'est cet événement malheureux cette société qui fait fi de la culpabilité et qui nous amène à nous contrôler en permanence. Et je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit sur l'usager. Dernièrement, j'étais à une réunion de pôle de mon hôpital et où le discours était clairement managérial, hein, c'est-à-dire que le pôle, c'est une mini-entreprise. Donc j'ai appris qu'on avait 4 millions d'euros de déficit et qu'il fallait tomber, 2 millions étaient incompressibles. Hein, je vous parle exprès comme ça en chiffres, hein, parce qu'on nous a parlé tout le temps comme ça. Les autres 2 millions, il fallait essayer d'économiser. Voilà, économiser à tout craint. Et c'est plus les usagers, c'est dans le langage des pôles, c'est le patient est un client. Et nous, nous sommes des fournisseurs. Donc, il y a quand même clairement un changement. Enfin, ce qu'on appelle la novlangue, bon, toujours avec cette...
La novlangue du management, c'est ça?
Voilà, oui, un peu. Bon, c'est vrai que cette référence au nazisme, au totalitarisme est un peu peut-être excessive. Mais bon, pour se faire comprendre, il faut un peu aller dans la... accuser le trait, hein. Mais quand même, le divin marché, donc par Dany Robert Dufour, on y est, mais je ne sais pas s'il a quelque chose de divin, enfin ça c'est peut-être lui qui peut nous le dire.
Merci Marie-Josée Del Volgo. Roland Gori, vous vouliez dire un mot sur...
Oui. Il y a un point extrêmement important qui a été soulevé, effectivement, par Nicolas Dissès et par Philippe Pignard. C'est la question de la participation des patients aux soins dont ils étaient jusqu'à maintenant dans nos systèmes disciplinaires uniquement des objets. Je crois qu'on peut pas faire l'impasse là-dessus. Je pense qu'effectivement les psychanalystes et les soignants d'une manière générale se sont maintenus dans des traditions un peu disciplinaires qui sont obsolètes, il faut le dire, et que donc effectivement tout accroissement des droits sociaux des patients, quel qu'il soit, d'une manière générale, on va dire, des acteurs, est extrêmement importante. Simplement, je pense que ça n'est pas pour les amener, et c'est peut-être le point où parfois je suis en désaccord avec Philippe Pignard, dont j'apprécie beaucoup les textes, par ailleurs, c'est pas pour autant les amener à une espèce de soumission librement consentie au traitement. C'est-à-dire, si vous voulez, quand, par exemple, le laboratoire Novartis dit « la Ritaline, un compagnon pour la vie », ça nous interroge, en quelque sorte, si vous voulez, sur la manière dont à l'heure actuelle on fait l'impasse sur la participation, pourrait-on dire, de l'environnement, de l'autre aux symptômes, et comment à partir de ce moment-là, si vous voulez, on pourrait très bien envisager des associations de patients qui font de la transaction, de la négociation sur leurs soins, mais sans qu'il y ait une réflexion, pourrait-on dire, épistémologique et anthropologique sur les traitements. Donc, je ne sais pas si je suis très clair.
Oui. Un mot sur la Ritaline, parce que tous les auditeurs ne sont pas au fait. Enfin, oui, il concerne surtout les enfants américains, mais oui, enfin, en Europe aussi.
Mais je pense que Philippe Pignard pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais si vous voulez, disons, pour aller vite, que c'est l'exemple même où une molécule sur le marché, une molécule qui est assez proche quand même des amphétamines, une molécule sur le marché va participer à la fabrication d'un syndrome, le syndrome de l'hyperactivité, un trouble d'attention de l'hyperactivité. Et on voit bien là comment les laboratoires pharmaceutiques vont soutenir un référentiel, un modèle, un style de raisonnement psychiatrique qui va s'orienter vers effectivement les consommations de médicaments. Donc je crois qu'il faudrait distinguer effectivement consommateurs, usagers et participation des patients. Moi, je crois que c'est très important qu'il y ait une participation, encore une fois, des patients au traitement dont ils seraient censés être l'objet.
Philippe Pignard,
oui,
et après
moi,
Nicolas
je suis très sensible aussi à ce que Roland Gori et Marie-Josée Del Volgo essayent de faire, c'est-à-dire de faire une critique sociale et de la société, de renouer avec la critique sociale. Et je me semble tout à fait proche d'eux de ce point de vue-là. Là où je suis plus éventuellement sceptique, c'est sur la possibilité, sur cette idée plutôt, que en gros la psychanalyse serait forcément dans le bon camp de la critique sociale. C'est-à-dire que la psychanalyse serait spontanément un allié de la critique sociale. Je trouve que c'est pas évident du tout, et je trouve que bien souvent, la psychanalyse en particulier... Et Michel Thorpe, qui est psychanalyste, l'a bien montré, parce que là-dessus, il a un point de vue très vigilant, ou Franck Chaumont, qui est également psychanalyste, l'a bien montré, en particulier quand elle articule la défense, quand elle fait la défense du nom du père, la question de la loi avec un grand L. À ce moment-là, on a vu qu'avec ces concepts-là, des pans entiers de la psychanalyse ont été dans le camp les plus réactionnaires qui soient. Quand on a eu la question des drogues et la question de comment on faisait avec les usagers de drogues illégales, et bien toute une partie des psychanalystes, avec ces concepts-là, sont tombés dans le camp le plus réactionnaire qui soit. On l'a vu, on le voit dans la question de l'homosexualité, où avec ces concepts-là, quand la question de l'homosexualité a été discutée en 1980 justement au moment du DSM, une partie de la psychanalyse américaine dirigée par Socarides est tombée dans le camp de la réaction. Ils voulaient continuer à soigner les homosexuels. Ils ont même quitté l'Association américaine de psychiatrie sur cette question de l'homosexualité. On l'a vu sur la question du Pax en France. On a vu toute une série de psychanalystes se dresser contre la communauté homosexuelle au moment où il y a eu la discussion du Pax. Donc je dis qu'il n'y a pas spontanément alliance entre la critique sociale et la psychanalyse. Même si, en ce qui me concerne, je me sens très proche de la façon dont Roland Gori et Marie-Josée Delvalgo posent le problème dans leur livre.
Merci Philippe Pignard. Je ne sais pas s'il y a un camp de la réaction et un camp qui ne serait pas de la réaction, mais Nicolas Dicèze, vous allez répondre.
J'essaye de revenir sur cette distinction-là, de laquelle on part, hein, de cette évolution, de ce pivotement de la psychiatrie vers la santé mentale. Il y a quelques points qui me semblent essentiels à noter. D'abord que c'est une politique qui est promu par nos gouvernants, hein, qui ne vient pas spontanément des médecins, des psychiatres, et qu'elle vient imposer une norme, hein, c'est-à-dire que le terme même de santé mentale, là, est intéressant. Il évoque immanquablement la question de ce qui serait une bonne santé mentale. Comme si nos gouvernants là venaient s'adresser à une science qui pourrait définir ce que c'est que la bonne santé mentale. La psychiatrie n'est jamais parti de ce pied-là. Hein. Ça n'a jamais été le point de départ de la psychiatrie que de définir ce qui serait une norme dans le domaine du psychisme, voire de la pensée. La psychiatrie, elle s'est intéressée aux déterminations de la folie, aux moyens de sa prise en charge. Hein. Et, si vous voulez, la question de la santé mentale, elle existait, ou la définition de la santé mentale, elle existait en creux.
Hein, et sur ce que vient de dire Philippe Pignard, qu'est-ce que vous pouvez répondre, éventuellement?
Pour les associations d'usagers.
Sur la question de la critique sociale, hein, est-ce que vous avez quelque chose à énoncer en tant que psychiatre, voire psychanalyste?
Je reprendrai plutôt la question autour des usagers, de l'intervention. C'est le phénomène qui est nouveau, hein, de l'intervention des usagers. Ce qui est promu au niveau du gouvernement, par exemple, par un des deux auteurs du rapport que vous citiez tout à l'heure, hein, c'est des associations d'usagers au sens de. Pas d'un individualisme des consommateurs. Les consommateurs, ils ont toujours été groupés. 50 millions de consommateurs, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais c'est de défendre là une politique qui serait du registre d'associations de consommateurs. Un des deux auteurs de ce rapport a énoncé il n'y a pas si longtemps, la psychiatrie doit devenir un trust. On est dans une logique qui est économique. Hein. C'est ça qu'il s'agit, je crois, de bien décrypter. On
est dans une logique qui est libérale. C'est ce que racontait tout à l'heure Marie-Josée Del Volgo.
Absolument, hein? Absolument.
Dany Robert Dufour.
Oui, moi, sur cette question de la critique sociale, je crois qu'il faut être très très prudent là-dessus et se garder de certaines facilités qui disent il y a les réactionnaires et puis il y a les progressistes. Tout simplement parce que je crois que le discours actuel du libéralisme, c'est quand même bien dans la ligne de mire de ce dont nous parlons en ce moment. La caractéristique du libéralisme, c'est que le libéralisme est révolutionnaire. Il est révolutionnaire parce qu'il bouleverse les modes de vie, c'était même ceci, on le repère par exemple dans le manifeste communiste de Marx par exemple, il dit que c'est le capitalisme est révolutionnaire parce qu'il ne tient pas à un certain nombre de rapports qui sont des rapports figés. Et je crois effectivement, puisqu'on parlait de mutation anthropologique, que le libéralisme à l'heure actuelle a réussi à produire un certain nombre de modifications extrêmement importantes dans les grandes économies humaines, évidemment l'économie marchande, évidemment l'économie politique, parce qu'il y a désuétude du politique. Pourquoi désuétude du politique? Parce qu'il faut faire un laisser-faire économique. Il y a un certain nombre de modifications dans l'économie sémiotique, la discursivité, tout simplement. On parle de novlangue, hein, qui enrobe les choses avec des sens comme ça, euphémisés, etc. Il y a des modifications importantes dans l'économie psychique. Par exemple, je crois que tout ce dont on parle en ce moment, c'est le passage global d'une économie du désir qui fonctionne à partir
moi je suis assez freudien, donc j'ai mes références claires, donc qui part de la nécessité de la répression d'un certain nombre de pulsions. Ça ne veut pas dire répression, et ça ne veut pas dire que je suis contre les pulsions et les passions, parce que je trouve ça beau, les passions et les pulsions, c'est la vie, c'est l'amour, c'est ce qui me mène, ce qui me traverse, etc. Mais malheureusement, je ne peux pas toutes les exprimer dans le champ social. Il faut que donc je mette un certain nombre au compte de quelque chose, au compte d'un collectif, pour que ça fonctionne. Bien, alors, il est évident que à partir de ce moment-là, quelque chose se passe donc dans l'économie psychique, dès lors qu'on dit au sujet qu'il peut réaliser toutes ses appétences. Ce qui est en train de se passer, c'est que, donc, c'est le discours du marché, désirez tout ce que vous voulez, on vous le donnera. Donc là, je crois que la critique sociale, c'est de bien repérer exactement cette modification dans l'économie psychique, entre économie donc du désir et économie de la jouissance, et d'en tirer toutes les conclusions, notamment des conclusions au niveau des modalités de subjectivation actuelles. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Moi, je ne crois pas que c'était mieux avant, parce que je ne suis pas un fanat de la condition névrotique. Hein, je ne trouve pas ça absolument merveilleux. Hein. C'est comme ça, c'était comme ça. Mais passer d'une condition névrotique à une autre condition qui n'est plus névrotique, mais qui serait au contraire dans le champ, qui laisserait le libre cours et donc qui irait vers des tendances où, comme un psychanalyste à l'heure actuelle le pense, dans le camp de la réaction, entre guillemets, comme vous dites, qui est Lebrun, par exemple, Jean-Pierre Lebrun, du côté d'une perversion ordinaire, comme ça semble se généraliser, avec donc la mise en avant par chacun de ses intérêts égoïste qu'il doit absolument défendre à tout craint sur le marché, je crois que là, on a des modifications substantielles sur lesquelles on doit être un petit peu attentif avant de s'emballer, de courir derrière et d'applaudir.
Vous vous étonnez d'avoir tous les homosexuels contre vous ?
C'est l'heure de la chronique de Florian Delorme, qui aujourd'hui a opté pour la théorie des jeux, tout simplement parce que il y a un chapitre sur la théorie des jeux, mais vous allez nous expliquer pourquoi.
Oui, bonjour Philippe Petit, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être que pour commencer, on pourrait définir en quelques mots la théorie des jeux en disant qu'il s'agit d'une formalisation mathématique des problèmes stratégiques. Aujourd'hui, la théorie des jeux s'applique à de nombreux domaines, l'économie, la stratégie militaire, la psychologie, la sociologie, le marketing, bref, à tout ce qui a trait finalement à des prises de décision. Alors comment cette branche des mathématiques est-elle née ? Alors l'histoire commence avec le grand John von Neumann, qui au début de sa carrière s'intéresse à la modélisation du jeu d'échecs. Hans Hermelo avait montré par la théorie des ensembles que l'on pouvait élaborer une stratégie optimale, unique, pour chacun des joueurs. Un ordinateur pouvait donc déterminer une stratégie exclusive fonction des choix effectués par un adversaire. Et John von Neumann se dit qu'on peut peut-être élargir ce raisonnement et il se demande si on ne pourrait pas mathématiser la rationalité. Ne pourrait-on pas déterminer une action en fonction de ce que font les autres? Et il écrit un article sur cette question en 1928. Mais il faut attendre la rencontre avec un économiste autrichien, Oscar Morgenstern, à Princeton, pour que les choses s'accélèrent. Alors voilà comment leur duo fonctionne. Morgenstern se pose un certain nombre de questions, il apporte des idées ci et là, mais globalement c'est John von Neumann qui va résoudre les problèmes, qui va rassembler les éléments et mettre sur pied donc la théorie des jeux, c'est-à-dire qu'il va formaliser une théorie des comportements stratégiques.
Ah, il y a le mot comportement.
Oui, vous allez voir.
On est sauvé. Il y a un lien avec l'émission
complètement, il y a absolument un lien, Philippe.
Très bien, Florian.
Et donc en 1944, les deux hommes publient Theory of Games and Economic Behavior, la théorie des jeux et du comportement économique, un livre qui expose donc une théorie vraiment exceptionnelle, révolutionnaire, mais qui en même temps est un échec total sur le plan économique puisqu'il se vendra très mal. C'est un flop. Alors pourquoi c'est un flop ? Parce qu'en définitive, le livre est très indigeste et en plus, il ne répond pas vraiment aux questions qui intéressent les économistes. D'abord, il ne traite pas des problèmes qu'on appelle à somme nulle, c'est-à-dire les problèmes dans lesquels ce que l'un gagne, c'est exactement ce que l'autre a perdu. Des problèmes aussi qui considèrent seulement des situations avec deux agents, avec deux joueurs. Par exemple, ça marche très bien pour des jeux de cartes comme le poker ou le bridge. Mais quoi qu'il en soit, donc les lecteurs vont rester assez dubitatifs face au contenu de ce livre, et les économistes le sont particulièrement. Alors, plusieurs années après, John von Neumann va ressortir sa théorie des jeux, qu'il va décliner à un autre domaine, la stratégie militaire. les techniques mathématiques qu'il a élaborées vont constituer ni plus ni moins que finalement le socle du département d'État américain. Elles vont être le support de la stratégie américaine dans la gestion de la guerre froide. Alors cette stratégie, Philippe, quelle est-elle? Eh bien, la solution, le modèle adopté par John Vindman est défensif. C'est-à-dire qu'il s'agit de jouer de façon à être dans la meilleure posture si mon adversaire joue ce qui est le pire pour moi. Tout cela, bien sûr, considérant que nous avons affaire à des acteurs qui sont rationnels, hein, Philippe. Si votre adversaire est fou, la stratégie fonctionne absolument pas. Donc c'est en fait une version défensive de la rationalité. C'est un algorithme que John Vindman avait baptisé Minimax. C'est la meilleure option possible à partir d'une certaine configuration, sachant que votre opposant agit de façon optimale lui aussi. Et donc en 1957, hein, l'année de la mort de John Vindman, eh bien on peut dire que concernant la stratégie militaire, l'ensemble du monde rationnel a opté pour une vision défensive de la rationalité, le fameux Minimax de John Vindman. Puis l'histoire continue avec un autre mathématicien, John Forbes Nash, un économiste qui s'est vu, et mathématicien aussi d'ailleurs, qui s'est vu américain, qui s'est vu décerner le prix Nobel d'économie en 1994. C'est donc cet homme qui va généraliser la théorie de Vindman, qui, je le rappelle, ne s'appliquait qu'aux situations à deux joueurs et donc à somme nulle, hein, c'est-à-dire des situations où l'un perd exactement ce que l'autre gagne. Là, avec John Nash, la théorie s'étend à des situations à n joueurs et à somme variable. Alors ça complique considérablement la donne, hein. Il faut connaître les choix des uns et des autres, il faut s'assurer évidemment qu'on traite bien avec des agents rationnels, hein. ça reste absolument impératif. Donc tout ça induit un très grand nombre de paramètres qui permettent de choisir in fine la meilleure possibilité pour vous, en considérant que les autres évidemment ont fait le même calcul que vous. Donc cette solution optimale est appelée dans le jargon des mathématiques un point fixe, et le théorème de John Nash donc montre que ce point fixe existe. Alors je vous annonce, Philippe, que nous serions, vous et moi, absolument incapables de faire ce genre de calcul, mais enfin, voilà, sachez que cette solution optimale existe. Et donc je finirai peut-être avec les propos de Roland Gori et Marie-José Del Volgo, qui affirment dans leur livre, je les cite, « Ce qui nous paraît nouveau dans le développement actuel de ces théories provient de ce que le calcul rationnel pour déterminer un choix stratégique ne s'impose plus nécessairement. Ce n'est plus le sujet qui calcule pour déterminer la maximisation de son profit déduite d'une coopération, mais son cerveau. Le cerveau est le nouveau sujet de l'analyse mathématique des comportements stratégiques, en particulier des conduites économiques. » Philippe Petit.
Merci beaucoup, Florian. Oui, alors vous terminez par la neuroéconomie. Roland Gori, une réaction à cette chronique, et pourquoi vous êtes attaché dans votre livre à la neuroéconomie et avoir consacré ce chapitre à la théorie des jeux?
Alors, on va être obligé de partir un petit peu en amont, si vous voulez. C'est-à-dire, la première chose que l'on peut dire, peut-être en réponse aussi à Philippe Pinière, je ne crois pas qu'il y ait une affinité préférentielle entre, bien sûr, la critique sociale et la psychanalyse. Et on a pu entendre des discours psychanalytiques absolument abominables sur le plan, je dirais, politique et sociale. Ça, je l'en donne volontiers. Je crois qu'il faut distinguer l'idéologisation d'une science de sa rationalité. Je crois que quand Guilhem nous l'avait appris, c'est un point important. Donc ça va être la même chose pour la neuroéconomie, ça va être la même chose pour la théorie des jeux. Et il faut distinguer, si vous voulez, pour aller vite, finalement, la niche écologique culturelle, pour parler un peu comme Ian Hucking, la niche écologique culturelle, d'où vont naître les savoirs. C'était, je ne crois pas à l'immaculée conception des sciences et des concepts. Ça naît à un moment donné dans la culture, et ensuite, ça a été le cas de la psychanalyse, ça a été le cas de la neuroéconomie, par exemple. Et puis, à ce moment-là, il y a une vérification de la validité. C'est-à-dire, il y a des travaux qui essaient, de manière tout à fait limitée, rigoureuse, par des expériences, de mettre en évidence un certain nombre de données. Bon, un certain nombre de faits. Ensuite, ça retourne vers la culture. C'est-à-dire, ça s'idéologise. On peut dire que pour la psychanalyse, c'est pareil. La psychanalyse, elle est née, il faut bien le reconnaître, à la fin du 19e siècle, si vous voulez, dans un siècle très positiviste, où on avait essayé de rendre compte des souffrances psychiques, des maladies mentales, à partir de la localisation cérébrale. Et ça n'a pas marché. On a essayé à ce moment-là, avec la théorie de la dégénérescence, de rendre compte à partir, si vous voulez, de la génétique, et entre guillemets, ça n'a pas marché. La psychanalyse, elle est née de ce reste-là de la science positiviste. Bon, et puis ensuite, elle a eu sa propre évolution. Je passe là-dessus. Et elle est retombée, quelque part, dans la culture, sous la forme d'idéologie, où effectivement, au nom de la psychanalyse, on a pu avoir des déclarations qu'on pourra dire, pour aller vite, très réactionnaires. Alors, à l'heure actuelle, la question, pour répondre directement à votre question, Philippe Petit, c'est qu'est-ce qui fait que, finalement, on va dire, la psychanalyse apparaît, comme d'ailleurs le marxisme, ou certains éléments de critique sociale, Adorno et autres, comme un peu ringard par rapport à quelque chose qui apparaîtrait très nouveau et qui concernerait la jonction de l'économie et la jonction des neurosciences. C'est pour ça qu'on a travaillé sur, un petit peu, si vous voulez, sur la neuroéconomie. Ben, je crois que c'est davantage lié, justement, à une manière nouvelle de penser le libéralisme, l'humain, comme forme, comme micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la compétition. Et je crois, là, que c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il y a cette espèce de jonction qui opère. C'est-à-dire que c'est boosté. On va dire que la psychanalyse a été portée pour de mauvaises raisons idéologiques à un moment donné, qu'elle est critiquée, à mon avis, à l'heure actuelle, pour de mauvaises raisons idéologiques. Et au niveau de la neuroéconomie, ben c'est pareil. Les travaux de neurosciences, ben je vous en parlais tout à l'heure, il y en a eu déjà. Hein, ça s'appelait pas neurosciences, ça s'appelait psychophysiologie, etc. Mais il y en a eu. Mais qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est boosté? Qu'est-ce qui fait que ça fait bien? Qu'est-ce qui fait qu'on va essayer de l'articuler avec également l'économie? Je crois que c'est lié à notre culture, notre forme de civilisation. Quand vous entendez, par exemple, s'il était question de Kim de Nash tout à l'heure, quand vous entendez qu'avec un spray d'ocytocine, on va augmenter la confiance des sujets, hein, c'est les expériences de Coswell de 2005, on va augmenter la confiance des sujets pour les amener à coopérer, vous imaginez en période préélectorale, ou simplement dans des supermarchés, alors il faut inonder la planète d'ocytocine pour amener un comportement social. Il y a une espèce de nouvelle naturalisation du lien social qui nous paraît extrêmement préoccupant. Mais bon...
Merci Roland Gori. Nicolas Dissez.
Je reprends les choses à partir de la théorie des jeux, hein, parce qu'il est vrai que c'est une théorie qui a à voir avec la politique de santé mentale, en ceci qu'elle véhicule l'idéologie d'un sujet qui serait totalement calculable. Hein. Il y a peut-être une formule salvatrice là d'un politique, pour le coup, qui était Franklin Roosevelt, qui indiquait, à propos du produit intérieur brut, il savait indiquer, le PIB d'un pays calcule à peu près tout ce qui peut être calculé, sauf ce qui vaut la peine d'être vécu. La psychanalyse, elle s'intéresse à ça, à ce qui vaut la peine d'être vécu et ce à quoi sont confrontés en ce moment dans les structures de soins les soignants, les équipes qui s'engagent dans ces procédures-là qui sont d'évaluation, de chiffrage de l'activité. C'est bien ce qu'elles viennent indiquer. C'est régulièrement que j'entends ce discours de dire quand toutes ces procédures, quand tous ces protocoles ils seront établis, hein, quand tout ça fonctionnera tout seul, il n'y aura plus besoin de moi. Alors ce qu'il s'agit de savoir, je crois, pour nous, là, au travers du développement de cette politique dite de santé mentale, c'est de savoir si nous tenons absolument à évacuer cet essentiel de ce qui vaut la peine d'être vécu dans nos actes soignants.
Merci Nicolas Dissez. Philippe Pignard.
Oui, moi je pense que effectivement je suis assez d'accord avec ce que disait Roland Gori sur le fait qu'il y a des machines qui se mettent en place au sein de la psychiatrie et qui se connectent très bien avec le capitalisme tel qu'il se développe aujourd'hui et que ça se connecte bien. Et c'est vrai qu'on voit la machine à produire des médicaments. C'est une machine industrielle, donc qui produit à la fois des indications thérapeutiques nouvelles et qui se casse sur des indications anciennes, mais qui en crée des nouvelles en permanence, comme on l'a vu avec l'hyperactivité chez l'enfant. C'est une nouvelle indication psychiatrique. Et ça se connecte parce qu'il y a des médicaments, et ces médicaments, effectivement, sont fabriqués par une industrie qui est totalement une des pièces maîtresses même du capitalisme tel qu'il se développe aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des machines qui se fonctionnent bien, et c'est vrai que la psychanalyse, elle a beaucoup de mal à se connecter à ces machines-là. Quelque part, c'est de l'artisanat par rapport à ces machines-là qui sont des machines industrielle. Mais maintenant, on a un problème qu'on ne peut pas résoudre avec des bonnes intentions. Parce que finalement, je suis d'accord avec vos bonnes intentions, M. Dissès, mais vous allez rester isolé. Si les psychanalystes restent isolés comme ils le sont, par exemple par rapport à la question des patients et au collectif de patients, vous allez perdre toutes les batailles. Moi, je vous mets en garde, non pas sur le fait que c'est très bien que vous perdiez, mais sur le fait qu'éventuellement, c'est dramatique pour nous tous que vous perdiez et que la façon dont vous vous organisez, dont vous pensez les choses en ce moment, fait que vous allez perdre toutes les batailles par rapport à cette machine-là. Je voudrais illustrer sur un point dont on a un petit peu parlé, et Roland Gori et Marie-Josée Delvolgo ont parlé.
Mais il n'y a pas consensus parmi les psychanalystes.
Non, il n'y a pas consensus en plus. Mais sur la question du DSM, par exemple. Le fameux DSM de 1980. Le DSM de 1980, il permet effectivement de tester les médicaments. Il permet de savoir, de mesurer l'efficacité, le bénéfice-risque qu'apporte un nouveau médicament dans des indications précises. Le problème, c'est qu'on est, en tous les cas, moi, comme la revue Prescrire, comme une série de gens qui participent de la critique sociale, on est tous pour que les médicaments soient mesurés. On est contre revenir à l'époque des années 40-50, où l'industrie pharmaceutique mettait sur le marché ce qu'elle voulait, sans aucun contrôle. Donc nous sommes pour exiger de l'industrie pharmaceutique qu'elle fasse des études cliniques. Donc on ne peut pas condamner le DSM, parce que sinon, on dit qu'il n'y a plus d'études. Ils vont faire leurs études comment? Le DSM, c'est l'outil qui permet à l'industrie, qui oblige, qui oblige l'industrie pharmaceutique à faire des études avant de mettre ses médicaments sur le marché. Alors ensuite, quelle est la situation? J'ai lu un numéro de la revue Mentale, qui est une revue dirigée par Jacques-Alain Miller, entièrement consacrée aux médicaments, qui est sortie en 2007. Il y a de très bonnes choses dans cette revue. Sauf qu'ils disent, d'un côté, on ne peut pas être contre les médicaments, disent les psychiatres, psychanalystes qui ont participé à cette revue, on les utilise, on ne peut pas être contre les médicaments. Il y a toute une série d'exemples où ils montrent comment ils utilisent les médicaments. Le problème, c'est que si on utilise les médicaments, et tous les psychiatres, même psychanalystes, en utilisent, comment on fait avec le DSM? On ne peut pas simplement dire que c'est une machine infernale. Le problème, il est très concret. C'est que si les médicaments, si on est pour que les médicaments soient étudiés avant d'être mis sur le marché, on a besoin d'outils comme le DSM, ou d'outils semblables, il y en a d'autres, hein, mais d'outils comme le DSM. Et ensuite, quand les médicaments sont sur le marché, comment pourrait-on dire aux gens, vous les prescrivez, mais vous ne tenez absolument pas compte de ce que les études cliniques nous ont dit sur eux? Donc vous ne tenez absolument pas compte du DSM? Ce serait de la folie furieuse. À partir du moment où ces médicaments ont été testés avec des outils comme le DSM, on est bien obligé, dans les prescriptions qu'on fait, de tenir compte des études cliniques qui ont été faites et qui nous ont dit dans quel cas ils marchaient et dans quel cas ils ne marchaient pas. C'est pour ça qu'on est... Là c'est l'aspect machine, je voudrais dire. Je ne dis pas ça pour défendre le DSM, mais je dis que vous êtes face à une machine qui fabrique de la psychologie, qui fabrique des neurosciences, et qui est une machine que vous ne combattrez pas avec de l'humanisme et des bonnes intentions.
Alors, le DSM, donc effectivement l'association américaine qui a promu une approche classificatoire des maladies dont on dit la plupart du temps qu'elle se fait au dépens de la clinique. Donc Nicolas Dissès, sur ce point.
Je reprends sur la place de la psychanalyse, hein, et de savoir, effectivement, la psychanalyse ne peut qu'avoir une place qui est latérale, marginale. C'est même là sa fonction essentielle, que de tenir un discours qui lui est propre, hein, qui ne rentre pas dans l'hégémonie actuelle que prend le discours d'économie libérale. Hein. La question qui est celle de la psychiatrie en ce moment, c'est de savoir si elle est en train de perdre toute place spécifique en optant pour le discours dominant, la norme, ce qui vient là, le discours de l'économie libérale, et de perdre ce qui était sa spécificité, de tenir un discours médical, grosso modo celui du serment d'Hippocrate. La psychanalyse, elle ne peut que rester latérale par rapport à ça. Son propos n'est pas que ce soit au cours de la consultation la logique de l'offre et de la demande qui prévalent. Hein. Son propos, c'est celui, par exemple, du désir et de la demande. C'est pas pareil. Et c'est une logique différente. Alors de ce point de vue-là, effectivement, la psychanalyse, elle ne peut se tenir que de façon latérale, hein, à l'égard du discours normé, du discours économique qui devient dominant. C'est ce qu'indiquait Dany Robert Dufour, je crois.
Dany Robert Dufour.
Oui, moi je pense que là c'est une question très très importante qui intéresse le philosophe. Donc je vais reprendre les choses un petit peu à partir de ce point de vue, si vous me permettez.
Un peu court pour que le débat s'accélère.
D'accord. Ce qu'on relève là, c'est la prévalence actuelle donc des neurosciences, des sciences cognitives, etc. Et ceci me semble correspondre à ce dont nous parlons depuis le début, à savoir la mutation anthropologique en cours, puisque globalement donc nous passons d'une perspective qui autrefois était une perspective dualiste. Je m'explique, depuis tout temps dans le champ de la philosophie, donc il y a eu des grandes catégories avec ici-bas, au-delà, visible, invisible, conscient, inconscient, et puis au XXe siècle, cette grande catégorie anthropologique, nature, culture. Hein. Or, la mise en avant de données qui sont des données naturelles, presque du darwinisme social, qui fait que les individus s'affrontent les uns les autres pour essayer de dégager dans l'affrontement social leur nature et assument leur nature de ceux qui peuvent aller jusqu'au bout de la défense de leurs intérêts. Ceci fait que nous passons donc de ce paradigme dualiste à un paradigme moniste, où il n'y a plus que de la nature des individus qui est à considérer. Hein? Alors, moi je ne veux pas invalider les perspectives nature, puisque nous sommes évidemment des êtres de nature, et donc il y a des études à mener sur les neurotransmetteurs, sur les médicaments, sur leurs effets, etc. Mais je ne suis pas du tout pour réduire l'ensemble des phénomènes humains à de simples phénomènes de nature, et je crois que c'est dans cette partie que la psychanalyse est en quelque sorte acculée, puisque l'on lui demande de rendre compte en nature de phénomènes dont elle rend compte en termes de culture. De culture qui est le grand terme de Freud. Malaise dans la culture, malaise dans la civilisation. Et dans cette mesure, je crois que la psychanalyse n'a pas du tout perdu la partie lorsqu'elle défend bec et ongle l'idée que un certain nombre des grands phénomènes humains ont à voir non seulement avec la nature humaine, mais avec la spécificité de la culture humaine.
Roland Gory, Roland Gory, excusez-moi, prenons un exemple pour terminer. Vous avez participé au mouvement pas de zéro de conduite, qui était une critique des approches neurodéveloppementales, concernant les enfants pour le repérage entre guillemets de la délinquance dès le plus jeune âge. Rappeler rapidement pour les auditeurs le sens de ce combat de pas de zéro de conduite.
Alors, en deux mots, le DSM 3 et 4, il ne s'agit pas des autres, fabrique aussi des symptômes. Pour reprendre ce que disait Philippe Pinière, c'est pas seulement une façon d'opérationnaliser, de vérifier les essais médicamenteux, mais ça fabrique du symptôme. Et on le voit en particulier avec un certain nombre de dispositifs d'expertise qui naissent encore une fois dans notre culture, comme les expertises de l'INSERM dans le champ de la santé mentale. Alors là, on a essayé de mettre en évidence, si vous voulez, à partir justement des classifications anglo-saxonnes, des troubles des conduites chez les jeunes enfants, et des troubles oppositionnels de provocation, des enfants de moins de 3 ans, qu'on a considéré à ce moment-là, avec une classification des études qui sont extrêmement douteuses sur un plan méthodologique, qu'on a considéré comme prédictive ensuite des comportements délinquants à l'adolescence. Donc, si vous voulez, il y a une réaction majeure des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des psychanalystes, des
travailleurs sociaux. Réaction massive, il y a eu énormément de...
Plus de 200 000 signataires.
200 000 signataires,
Et à ce moment-là, si vous voulez, on voit bien d'ailleurs dans notre société comment dans cette société de la gestion des risques, et là, la notion de comportement, elle vient bien au pli philosophique, justement, de cette notion de risque, on voit bien comment cette espèce de porosité, pourrait-on dire, avec l'opinion publique, avec les médias, a eu une influence, puisqu'à partir du moment où on a été 200 000 signataires, même un petit peu avant, on a été entendu, et sur les médias, vous êtes bien placé pour le savoir, et auprès du politique. Et donc, on a pu, à ce moment-là, demander la révision méthodologique de ces expertises, voire l'arrêt d'expertises qui n'étaient plus finalement que des dispositifs de normalisation, non plus seulement des populations, mais des professionnels chargés de soigner, si vous voulez, ces populations. Donc je crois que c'est là où on voit comment un mouvement, effectivement, social peut faire contrepoids à ces dispositifs de normalisation.
15 secondes pour Marie-Josée Del Volgo. Ce mouvement d'expertise féroce et précoce des troubles du comportement, vous le constatez dans votre pratique, Marie-Josée Del Volgo ?
Écoutez, là, je voulais plutôt réagir au sujet de ce qui a été dit sur la place de la psychanalyse.
15 secondes.
Oui, 15 secondes. Je pense qu'il faut penser aux psychotiques qui sont en prison, SDF. Et je pense que personne ne peut rouler des mécaniques en la matière. Nous avons à être modestes. Il y a beaucoup de travail devant nous. Et voilà, les parents, les patients qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'on n'a pas de solution miracle et que ni les psychanalystes, ni les TCCistes, ni les psychiatres biologistes n'ont la solution et il est temps peut-être d'être pour tous, nous tous plus modestes.